Here's the 0-2 pitch. Kirk bounces one up the middle. Bits to the back. Over to first to beat the champ. You gotta knock him out. The Dodgers stand tall and win back-to-back titles.
T'sais, ça fait quand même une coupe d'heure déjà que c'est terminé la Série mondiale, mais je le ressens encore en dedans parce que tu le sens qu'il y a une grosse opportunité qui a été ratée de la part des Jays. Je vais faire un parallèle boiteux avec les Canadiens. La finale de la Coupe Stanley de 21 contre le Lightning, ça a fait mal, mais on s'est fait défoncer. Fait qu'à un moment donné, tu t'en viens à la conclusion que ça va arriver puis c'est pas grave. C'est ce que j'avais anticipé pour les Jays. Je pensais que les Dodgers allaient les passer rapidement dans le tordeur, mais non! Ils étaient à ça de gagner Mark Griffin, puis malheureusement, ils ont échappé la Série mondiale.
Écoute, quand tu passes à ça de la gagner, là, c'est effectivement c'est que tu as fait les choses de la bonne manière. T'sais, personne voyait les Jays remporter le titre de la division S de la Ligue américaine cette année. Ils ont surpris toute la saison.
Exact.
T'sais, je veux dire, ils ont...
De saison, mais après ça, ça s'est...
Exact. Mais tu sais, écoute, ils ont joué de la grosse balle. Puis défensivement, ils ont été très solides. Et rappelez-vous le jeu de Vladimir Guerrero qui tourne un double jeu avec un relais canon au deuxième dans un moment clé du match. On pourrait en nommer plusieurs. Les courses sur les buts ont été coup-ci, coup-ça dans cette série-là. Mais je veux dire, tout ça pour dire que... Regarde, ils ont passé effectivement à ça. Ils ont passé à quelques centimètres près, faut-il le dire, sur le jeu de Connor Falefa au marbre. Il y a tellement de situations. Ils ont juste pas été assez opportunistes dans les deux derniers matchs, chose qu'ils avaient été si bons avant ça et en saison.
Ils n'ont pas été capables de fabriquer des points, faire la petite balle comme on l'a vu. Combien de fois on a vu un coureur au troisième avec un seul retrait ne pas venir marquer? Et ça, c'est inacceptable. Il faut être capable d'aller chercher ces points-là, dont à commencer celui de Connor Falefa. Commençons par là, Marc. On se retrouve dans une situation où est-ce que les Dodgers viennent de créer l'égalité en 9e avec un circuit, mais tu remplis les coussins, tu as Varsho à la plaque, il y a un seul retrait, un ballon sacrifice fait le travail, une balle qui perce l'avant-champ fait le travail, une balle passée fait le travail. Malheureusement, Connor Falefa, une course serrée au marbre, mais il est retiré.
Oui, ben écoute, premièrement, Varsho, j'imagine, cherchait un lancer un petit peu plus haut dans la zone, parce qu'évidemment, tu as parlé de ballon sacrifice. Juste frapper une balle au champ extérieur. Je trouve ça plate qu'elle ait laissé passer le deuxième tir qui semblait un tir prenable, mais ça, regarde.
Il se cherchait au bâton.
Exact.
Il a été mauvais,
il était mélangé comme un jeu de cartes lorsqu'il se présentait au bâton. Mais ceci étant dit, il a mis une balle en jeu où ça a pris quand même un beau jeu de Rojas du revers.
Oui.
Bon, de saisir.
Déséquilibre!
Avec hésitation et en déséquilibre. Écoute, normalement, là, avec un bon écart et une bonne réaction, là, moi, quand la balle a été frappée, puis j'ai vu l'hésitation et le déséquilibre, j'ai dit c'est terminé. C'est terminé. Et là, j'ai même pas trouvé ça serré tant que ça. Je pensais vraiment que ça allait être plus serré que ça. En regardant les reprises, écoute, le coureur au troisième, là, tu peux t'éloigner aussi loin que le troisième but est éloigné de son coussin. Ça, c'est la première chose qu'on t'enseigne. Je le sais que la première chose que l'instructeur au troisième va dire. Fige sur la flèche. Attention aux flèches, tu peux pas te faire doubler dans cette situation-là. C'est normal, c'est bon. Sauf que là, il faut que tu sois au même écart. Une fois que ton écart est pris, il faut que tu aies ce qu'on appelle un walking lead, OK? Donc, un deuxième écart où tu es un petit peu en mouvement. Pas un sprint, là, mais tu es en mouvement et là, ton mouvement t'amène jusqu'à temps que la balle arrive dans la zone de contact. Si tu as peur que le receveur lance au troisième, perds pas de temps, là. Tu fais ton pas, tu retournes rapidement au troisième, puis là, tu regardes. Si le troisième but n'est pas au troisième, tu relaxes. Si le troisième but est à son coussin, là, tu resprintes. Mais écoute, on va gagner une série mondiale si j'ai un bon départ. Là. C'est ce qu'il faut que tu dises dans ta tête.
Il t'amène là pour courir, c'est ta job. T'as pas joué dans la game, il t'amène pour courir. Ils ont sorti Bichette à sa place.
Fait que là, t'as beau me dire, attention aux flèches, je suis tout à fait d'accord, mais combien de flèches en saison régulière, Dalton Varsho a frappé au troisième. Zéro.
Mais aucune.
Zéro. Fait que là, tu y vas avec tes statistiques. Là. En tout cas, s'il y en a frappé, là, il n'en a pas frappé beaucoup. Alors, les chances qu'il frappe une flèche au troisième sont minimes. Il faut... Écoute, t'es le coureur qui va faire gagner le match et la Série mondiale. Il faut que tu sois hyper agressif, selon moi, sur le contact. Mais là, tu regardes, la balle est frappée, il n'est même pas encore en mouvement. Écoute, ça fait juste partie, c'est une partie évidemment d'une des raisons pour laquelle les Jays l'ont échappé. C'est pas juste ce jeu-là, mais c'est un jeu de base. Je sais que Whit Merrifield, sur les réseaux sociaux, est très agressif, disant « Non, il a fait ce qu'on a enseigné. » Alors, je m'excuse. Je m'excuse, Whit, là, puis j'apprécie beaucoup Whit Merrifield, mais non, c'est pas vrai. Dans une situation où tu peux gagner une série mondiale, il faut que le coureur ait le meilleur départ possible. Et pourquoi glisser au marbre? Pourquoi glisser des pieds devant au marbre? C'est un jeu forcé. Sprint, passe à travers le marbre. Mm-hmm. Puis là, ben, on décidera la reprise vidéo après ça.
Ah oui, ou plonge les mains par en avant. Le moindre sentiment peut faire la différence. Et ça a été le cas. C'est quoi? C'est 3 pouces peut-être qu'il lui a manqué.
4-5 pouces peut-être. Là,
c'est extraordinaire. Marc, je vais te poser la question rapidement. Là. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de demander un squeeze play à Dalton Varsho sur la situation?
Avec un... Moi, ça m'a traversé l'esprit, mais lorsque je vois la façon dont la défense était déployée, moi, j'étais correct à le laisser s'élancer. Je sais qu'il était mélangé là, comme un jeu de cartes, le Varsho, mais là, il faut que tu déposes ça comme il faut. Il faut que tu déposes ça comme il faut. Puis tu veux pas créer un double jeu. Mm-hmm. Parce que tu as une situation où tu as juste un retrait. Là. Mm-hmm. Fait que c'était un petit peu trop.
Il faut que tu fasses contact, risqué, absolument. Là. Est-ce que les gars, Marc, la petite balle, on en fait moins qu'avant? Est-ce que les gars pratiquent encore ça, les squeeze play, les souricières? On en voit presque plus.
Les frappes même les frappes on en voit
on
plus.
On en voit presque plus de ça.
Non, mais c'est ça. Mais tu sais, l'amorti sacrifice, là. Les retraits sont tellement précieux. T'en as 27. Là, quand t'en donnes un, il y a même des gens qui ont dit pourquoi qu'on a donné. À un moment donné, on a déposé un amorti. C'est Nathan Lucas qui a déposé un amorti.
Ouais, moi, ton deuxième frappe. C'était le jeu à faire.
Oui, mais c'est quand même un retrait. T'as un coureur au deuxième. T'as deux façons de penser. T'as un coureur au deuxième, j'ai 3 chances de le faire marquer avec un coup sûr, ou je me sacrifie.
Je l'amène au troisième.
Là, j'ai pas. Mais tu sais, sauf que là, ça te donne 2 autres chances. Mais sauf que là, il faut que le frappeur, faut que tu évites le pop fly, faut que tu évites le retrait sur des prises, faut que tu évites ici. Alors que tu te dis, j'ai 3 chances avec frappeur 2, 3 et 4.
Mm-hmm. Ouais.
Tu sais, fait que là, faut que tu. Alors, bon, on a décidé que Locus, on le sacrifiait. Mais là, Vlad, c'est sûr qu'on ne donnait rien de bon. Puis bon, ça s'enchaîne ainsi. Alors. C'est pour ça que l'amorti, la situation est toujours... Faut attendre de voir c'est qui suit, c'est qui le prochain frappeur, est-ce qu'on change de lanceur, il y a un paquet de décisions à prendre.
C'est quand on dit que ça se joue à pas grand-chose, là, immédiatement après le jeu, le canneur fallait fort au marbre, qui a fait en sorte de générer le 2e retrait de la 9e manche. Clement se présente à la plaque, un long ballon au champ extérieur, mais Dave Roberts venait d'apporter un ajustement à sa défensive, c'est Paez qui est allé patrouiller le champ centre.
En milieu de manche qui a fait le changement.
Et c'est lui qui fait le gros catch.
Incroyable, sérieux, là, ça là, c'est un éclair de génie. Puis Edmund n'est pas un mauvais voltigeur de centre non plus, mais...
il est pas là. Il est pas là sur ce jeu.
Ben non, il est pas là.
Et Kenner Falefa, je suis pas sûr qu'il attrape la balle, Marc, s'il est... excuse-moi, Kenner Falefa, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Kiki Hernandez, je suis pas sûr qu'il attrape la balle si c'est pas Paez qui vient sauver les fesses.
Il avait l'air dans le trou, puis il m'a dit l'autre est arrivé, puis il l'a tassé de là pas à peu près. Mais effectivement, ça, c'est toutes des petites affaires qui, au fil du temps, au fil du match, ben, s'accumulent, puis là, pouf.
Moi, quand la balle a été frappée, Marc, et que l'angle général de la caméra nous a pointé vraiment la balle vers le champ extérieur, on m'a dit, ça y est, c'est réglé. Ils jouaient rapprochés. As-tu été surpris de ça?
Écoute, qu'ils jouaient rapprochés sur le frappeur auparavant, tout à fait normal.
Oui, pour le ballon sacrifice.
Oui. Si la balle est frappée derrière moi,
ça change rien.
Et là, c'est effectivement, ma première réaction était la même que la tienne, Anthony, parce que j'étais vraiment surpris. Parce que Clement, à ce que je sache, il était pas pire.
Ben oui, il était plus de nouveau record.
Mais encore une fois, on a placé les gars en fonction où Clement, peut-être, tu veux pas qu'une balle, un entrechamp, une balle frappée à l'entrechamp puisse tomber. Alors, on s'est dit, dans le pourcentage, on a fait nos calculs chez les Dodgers que la balle allait peut-être frapper devant les voltigeurs au lieu de derrière les voltigeurs, mais bon, le catch a été fait.
Je veux donner du crédit à Clement. Plus tôt dans le match, on essaie de déposer un amorti du côté d'Jimenez, ce qui est son travail, je pense, comme 9e frappeur, pas de problème. Clement est au premier, on veut l'amener en position de marquer. Il surprend les Dodgers qui dort, vole le 2e but, plus besoin de déposer l'amorti. Jimenez s'élance, frappe un coup sûr, vient marquer. Ouais. C'est le genre de situation que je me disais, ça va bien. Là. Les Jays, on est capable d'aller faire la différence dans les petits détails. À ce moment-là, je pensais vraiment que les Jays allaient remporter le match, Marc.
Mais tu sais, rappelle-toi, tu parles d'Jimenez, lorsqu'il a fait une feinte d'amorti, et s'était lancé.
Mais oui.
Ouais, plus tard, ça. La plus flèche à Muncy.
Oui, exact. Mais écoute, imagine-toi, là, il a frappé cette balle-là au-dessus de 100 000 à l'heure, alors que Muncy jouait rapproche. Tu sais, cette balle-là est frappée, là, quelques centimètres à la droite. Ou c'est quelques centimètres. Tu sais, je veux dire, t'as-tu vu la réaction? C'est comme un gardien de but, là. Puis même Muncy a fait comme. Ouf!
Mais t'imagines s'il fonce vers la balle en croyant l'amorti, il y a la balle en plein dans le visage.
Si Clement, je pense que c'est Clement qui est au deuxième là-dessus, ça force que Muncy, il peut pas vraiment trop décoller son bac, parce que sinon c'est un vol de but facile.
Ouais.
S'il est au premier, par contre, Muncy part comme une flèche vers le marbre, et là, il aurait pu se faire défigurer par la flèche.
Non, mais t'imagines-tu quand même que, tu sais, d'un côté, il y a une chance, d'un côté, il y a une malchance, mais tu sais, cette balle-là là, est frappée sur le nez, là. Cette balle-là va en lieu sûr. Là aussi, il y a un autre résultat au match, là. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait en nommer là, une vingtaine de situations dans ce match-là où ça aurait pu faire basculer le match.
Ouais, restons sur les frappeurs. On s'adressera aux lanceurs après la pause, si tu le veux bien, Marc.
D'un pas pire qui vient du Japon qu'il faut qu'on parle.
Ouais. On va en parler tantôt. Je veux t'entendre sur une situation Jiménez-Robleski, lancé à l'intérieur, deuxième lancé à l'intérieur, troisième fois sur les mains, la chicane pong, les bases vides. Ouais. Jamais en 100 ans, j'aurais pensé voir les bases se vider en série mondiale dans un match numéro 7.
Ben, puis surtout pas avec ces deux gars-là que tu as mentionnés. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas de message là-dedans. Là.
Ouais, mais c'est de l'animosité des Sagames, les gars, tu sais, puis un build-up, puis on veut gagner, puis tu sais, même les bullpen.
Mais t'essaies pas d'atteindre le neuvième frappeur, là,
non. Moi, honnêtement, sur le coup, j'ai pas aimé ça, dans le sens, j'ai pas aimé, je comprends Jiménez, tu sais, c'est plate, là, parce que faut que tu sois au bâton, puis d'en avoir filé une coupe près du nez, là, que tu t'aimes pas ça, c'est clair. Mais dans cette situation-là, faut pas que tu réveilles les Dodgers. Moi, j'étais inquiet là, que cette situation-là allait réveiller un petit peu les Dodgers. Là, les bases vides, il y a un petit peu d'animosité, puis là, bon. Mais on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça, selon moi, du côté des Jays. Alors, prends ton but, c'est une occasion en or, t'es une autre présence sur les buts. D'ailleurs, écoute, combien de fois les Blue Jays ont eu le premier frappeur sur les sentiers dans ce match-là? Incroyable. Ouais. Et là, statistiquement, quand un premier frappeur, peu importe, que ce soit un coup sur balle, frappeur atteint, il sera au premier but, normalement, 7 fois sur 10, il vient marquer.
Ouais.
Et ça n'a pas été le cas dans le match.
Écoute, regarde, ils sont 3 en 17 avec des coureurs en position de marquer. Combien de fois on a eu un coureur au troisième, un seul retrait au moins, qui n'a pas eu de point marqué? Pour moi, c'est bien beau blâmer Hoffman, puis blâmer Bieber, puis tout ça, là. Mais pour moi, c'est le manque d'opportunistes au bâton qui a fait la différence dans le match.
Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, les gens disent, la grosse masse salariale des Dodgers qui a encore gagné. Je m'excuse, mais on parlait pas d'argent sur le terrain, dans le sens que, tu sais, ça s'est joué sur le terrain, ce match-là. Mm-hmm. Ça s'est pas joué avec des salaires de X, Y, Z, selon moi, là, parce qu'on a passé si près de faire le travail.
Les Jays, c'est pas comme s'ils ont une petite masse salariale. Je pense qu'ils sont top 5.
Ils sont top 5. Cinquième.
As-tu été surpris que les arbitres avertissent les deux abris?
Oui.
Moi, honnêtement, là, je trouvais que ça n'avait pas sa place.
Ben non. Il n'y avait pas de message.
Ils ne régleront pas de compte au septième match de la Série mondiale.
Exactement.
Voyons, ça n'a pas de sens.
Tu ne veux pas mettre un gars sur les buts parce que tu n'es pas content d'une situation. Ça n'avait pas sa place. Vraiment, si on a manqué de jugement à ce niveau-là. Mais évidemment, comme il ne s'est rien passé par la suite, comme on s'attendait à ce qu'il ne se passe rien.
Mais tu sais, Marc, le béton, c'est pas arrivé, là. Mais un lanceur là, qui peut en échapper une, ça
Glass
arrive.
Glasnow, mettons, il y arrive
dans le
match.
Mais il faut quand même que l'arbitre juge que c'était de façon intentionnelle.
Je comprends.
Mais effectivement, ça peut arriver. Ah oui, Glasnow peut en échapper une haut à l'intérieur parce qu'il veut... Tu sais, Vlad, là, c'est clair qu'on le lançait à l'intérieur. Là. C'est en échapper une un petit peu haute à l'intérieur.
Ouais,
là,
c'est ça.
Mais là, c'est au jugement de l'arbitre à ce moment-là.
Ouais, ils se sont juste peinturés dans une situation qui était un peu ridicule. Ouais, on était ensemble. Là, comment ça donnait son show, là, avertit tout le monde. Hey, relax, là, relax. Mais bon, on va en parler de lanceurs parce qu'après la pause, Marc Griffin reste avec nous. Il y a encore plein de sujets à aborder. Faut absolument parler de Jeff Hoffman, qui malheureusement, c'est un peu une séquence à l'image de sa saison et il va devoir porter ça pendant des années. Mm-hmm. Jeff Hoffman, restez là.
Cost everybody in here a World Series ring, so it was pretty just gotta execute better in that spot and not let that happen.
Celui que vous venez d'entendre, c'est Jeff Hoffman. Il mentionne que il se sent mal parce qu'il a coûté une bague de série mondiale au reste de son équipe. J'y attribue pas 100% du blâme. Mais clairement, on va regarder dans sa direction parce qu'il a concédé le circuit égalisateur à Miguel Rojas.
Ouais, mais dans ce cas-ci, là, c'est sûr que la glissante qu'il a lancée à Rojas, c'est pas là qu'il la voulait. Mais c'était même pas une prise, les gars. Fait que Rojas, à quelque part, la balle a trouvé le baril de son bâton. Mm-hmm. Ça a tombé de même, tu sais. C'est plate parce que tu menais par un puis il te restait deux retraits. Puis là, c'est comme si tu disais, OK, c'est le neuvième frappeur, là, on va s'en débarrasser. Puis c'est comme si on pensait déjà à Otani.
C'est ce que je pense aussi. Ouais.
Alors, c'est là que la glissante n'était pas parfaite. Puis là, ben, ça s'est retrouvé, évidemment. Bon,
on pensait à Otani parce qu'on pensait que lui, ça allait être facile. Et on pensait à Otani parce qu'on voulait pas mettre quelqu'un sur les sentiers avant qu'Otani se présente.
Exact.
Il y avait ces deux situations-là.
Exact. Mais, tu sais, t'as raison de dire. Puis, tu sais, on pourrait parler de Bieber avec le circuit qu'il a accordé à Will Smith. Moi, je trouvais ça que c'était effectivement à deux balles, aucune prise. Je trouvais ça extrêmement dangereux. Mais je reviens quand même. Moi, c'est plus le 3-17. C'est plus l'attaque, selon moi, qui a fait en sorte que les Blue Jays ont perdu ce match-là. Tu sais, donner des circuits en solo, tout le monde va te le dire, tu vas en donner un de temps en temps, mais lorsqu'ils sont en solo, c'est des circuits d'un point,
ouais.
Tu peux essayer de t'en tirer. Mais tu sais, c'est sûr que s'ils avaient donné un circuit de trois points, là, ça aurait été autre chose. Alors, moi, c'est plus l'attaque là, qui a fait défaut.
Je veux t'entendre, parce que Yes Savage n'était pas parfait. Il n'avait pas toute son étoffe, mais il se débrouillait quand même bien. Il y a deux retraits en huitième, c'est Tommy Hendman qui s'en vient à la plaque. Je pense que Yes Savage en a encore dans le bras.
Ouais.
Pourquoi rentrer Hoffman et lui demander quatre retraits plutôt que de demander à Yes Savage de finir la manche, permettre à Hoffman de continuer à prendre des lancers dans l'enclos et l'amener en neuvième?
Écoute, moi, la seule chose que je peux voir, c'est que le gérant se dit, moi, là, si je perds, je vais perdre avec mon meilleur. T'sais, si je pour l'échapper, moi, l'échapper avec mon meilleur. C'est un peu ça, parce que là, si tu laisses le gars de 22 ans qui se débrouille quand même pas pire, mais qui n'est pas dans une situation idéale, parce qu'il arrive, évidemment, il a lancé il y a deux jours. Bon, on connaît le contexte. Alors, il s'est dit, regarde, il a fait le travail, je m'en vais avec mon meilleur, je vais finir la manche, puis bon. C'est comme ça, j'imagine, qu'il a pensé, parce que c'est sûr que si Hoffman a... Parce que rappelez-vous, la demi-manche qui a passé sur le banc, elle a été longue.
Ben oui,
ben oui.
Alors, souvent, un releveur, tu t'échauffes, tu t'en viens. Alors là, qui a été sur le banc un petit bout de temps, est-ce que ça a joué un rôle? Pourtant, les deux premiers, le premier frappeur, on l'a retiré. Hoffman semblait quand même en possession de ses moyens, de ses tirs. Mais la question se pose, mais moi, c'est ça. Lorsque tu amènes ton meilleur dans une situation, le gérant va dire, écoute, moi, j'ai amené celui qui j'ai fait confiance toute l'année dans cette situation-là. C'est aussi simple que ça.
Malheureusement, toute l'année, c'est une situation qui s'est produite assez régulièrement de donner des circuits.
Puis de la part de Hoffman,
c'est ça le problème.
Ouais, ouais. On avait toujours. En fait, moi, c'était Otani que j'avais peur dans cette manche-là. Ben, je craignais que tu laisses une glissante de trop,
ouais.
mais pas contre Miguel Rojas.
Puis finalement, Otani, un lancé, ballon dans le champ, c'était terminé. Ça a été Hoffman s'est débarrassé d'Otani facilement, mais c'est Rojas qui a fait toute la différence. Puis honnêtement, Rojas, il a peu joué. Mais il est un héros tellement important pour les Dodgers. Le gros jeu en défensive dans le match numéro 6,
ouais.
Pour capter une balle qui n'est pas évidente. Là. Kiki fait tout un jeu là, pour remettre. Là, mais c'est du revers en reculant. Rojas fait le jeu. Le circuit égalisateur. Le jeu pour épincer à la plaque, pour épingler à la plaque Kenner Falefa. Tu sais, il a pas joué beaucoup, mais son nom est très important, Marc, pour les Dodgers.
Dave Roberts passe pour un génie. Lorsqu'on l'a inséré dans le match 6, tu l'as dit, là, on voulait brasser un peu les cartes. On l'insère, impliqué dans le jeu que tu as mentionné. C'est un gamer, là, excusez l'expression, mais c'est vraiment un joueur d'équipe. C'est un joueur qui voulait. Puis garde. Sur la grande scène du baseball, il a réussi à produire quand c'était le temps. Alors, il faut lever notre chapeau à un gars comme ça. Tu sais, Hoffman a raté son tir, mais il faut quand même ta frappe de l'autre côté. Là. C'est pas juste je l'échappe, il frappe un double. Il a mis l'autre bord, puis il n'y avait pas de doute. Là.
Non,
parce que
la balle
a quitté le bâton. On savait là, qu'on venait de créer l'égalité. Là.
Ah non, il n'y avait absolument aucun doute. C'est dommage parce que Hoffman va porter ça. Bieber rentre dans la longue lignée des lanceurs partants qui, malheureusement, s'amènent en relève et donnent un circuit. Tout le monde a en tête présentement Steve Rogers, mais il y en a eu plein d'autres. On peut penser à Tim Wakefield aussi sur Aaron Boone.
Saviez-vous que Will Smith, qui a frappé le circuit, là, évidemment, qui a donné la victoire, quel numéro a Will Smith? 16. Quel numéro avait Rick Monday?
16. Ah ouais.
16.
Ah ouais.
Wow. Avec Rick Monday et Will Smith, les deux portent le numéro 16. Les deux sont venus au Canada.
Eh ben.
Nous frapper des circuits qui font très mal.
Wow. Incroyable, ça.
Ça fait mal à entendre, ça, cette stats-là. Marc, je veux t'entendre sur Max Scherzer. On verra si ce sera sa dernière présence dans le baseball majeur. Il a donné plus de baseball que ce que j'avais anticipé. Moi, je pensais qu'on lui aurait donné seulement un tour de frappeur, puis qu'après ça, c'est all hands on deck, c'est match 7, tout le monde est capable de contribuer. Non, on lui a permis quasiment de lancer 5 manches, 4 manches et un tiers, et il a très bien fait. Il a été cogné solidement, par contre. Il est appuyé par une défensive solide, Varsho, Guerrero. Mais malgré tout, il a fait le travail qu'on lui a demandé.
Absolument. C'est le gars que tu voulais au monticule pour amorcer le match, pour même s'il est intense... Sa présence pouvait calmer les gars autour. Puis, il a fait le travail. Puis, John Schneider avait dit, moi, je le mets. Puis, Oui, tout le monde pense que ça va être un tour au bâton, mais je vais y aller avec ce que je vois sur le terrain. Parce que, t'sais, mm-hmm. C'est ce que les yeux me disent. Pis, t'sais, à la limite, je pense qu'il l'a étiré juste au bon moment. T'sais, il a décidé de le sortir au bon moment. Je pense que la stratégie était la bonne. L'utilisation des lanceurs, on peut questionner, comme tu as mentionné un petit peu tantôt, pourquoi amener Hoffman en huitième alors que Yassavitch semblait quand même bien fonctionner. Mais regarde, moi, d'avoir un gars comme ça, avec son répertoire, avec son expérience en série, avec son intensité, je pense que c'était le gars parfait pour commencer le match.
Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont signé au final, là, ouais. Pour les grands moments comme celui-là. C'est pas la première fois qu'il a lancé un match numéro 7 de série mondiale. Il l'a bien fait dans les circonstances.
Puis surtout qu'il a mentionné qu'à 41 ans, là, il a repris le goût à jouer au baseball. Pas qu'il n'avait pas perdu le goût, mais de voir l'amour du baseball de ses coéquipiers, de ses jeunes coéquipiers, lui, il a trippé bien raide.
Ça, c'est bon pour les Blue Jays en général, lorsqu'il arrivera le marché des joueurs autonomes, parce que tu as un gars comme Max Scherzer, avec son pedigree, son statut, qui débarque et qui dit « Ouais, OK, j'ai trouvé l'amour de jouer au baseball ici. » Kevin Gausman a fait un plaidoyer dans ce sens-là aussi dans les derniers jours.
Écoute, puis là, tu as un Chris Bassett qui devient joueur autonome, Bo Bichette qui devient joueur autonome, et les deux ont dit quoi? J'aimerais ça jouer, j'aimerais ça retourner puis jouer avec ces gars-là. Ouais. C'est rare que des gars qui vont être. Souvent, on disait, ah, les gars sont bien, mais tu sais, sont bien gentils, mais regarde, c'est une business, puis c'est vrai que c'est une business, puis ils vont aller le tester le marché. Mais ça reste qu'ouvertement, ils ont dit qu'ils aimeraient revenir.
Ouais.
Fait que ça, mais c'est
encore une chance possible de la
saison mondiale
l'année prochaine.
Absolument.
C'est encore un très bon club, aussi, là, c'est sûr.
Oui, contrairement à ce qu'on avait vu, mettons, de Juan Soto l'année passée après avoir été éliminé. Immédiatement, lui, il avait ouvert la porte à quitter les Yankees de New York.
Il n'avait même pas parlé à ses coéquipiers. Il était parti, puis lui, il savait que probablement qu'il s'en allait à ce niveau-là. Alors que lorsque. Tu sais, Bassett. Puis en passant, là, les gens me demandent beaucoup, ça vaut combien, Bo Bichette? Mais Bo Bichette, si tu le signes à nouveau, il va probablement jouer au deuxième but. Je pense que là, sa carrière va l'amener au deuxième but. Mais vous savez, lorsqu'on est joueur autonome, là, tu regardes le rendement en offensif, évidemment, mais chaque position a une valeur. T'sais, les premiers buts ont une valeur, un voltigeur a une valeur, les deuxièmes buts n'ont pas la plus grosse valeur sur le marché des joueurs autonomes. Dans le sens que je parle de valeur, je parle de salaire. T'sais, alors, si Bo Bichette est encore...
Sauf que quand tu frappes en haut de 300...
Ben, c'est ça que j'allais dire. Non, il a un bâton au-dessus de la moyenne pour la position.
Ce que je veux dire, c'est qu'un bon deuxième but, là, tu à 20 millions, tu peux peut-être le signer, mais un très bon joueur d'arrêt-court, t'es rendu à 25-30. Tu comprends? Il y a comme un 5-10 millions de différence. Alors, ça, on va voir ce que Bichette va vouloir faire. C'est comme Chris Bassett. Si Bassett veut revenir, est-ce que tu veux revenir comme releveur? Parce qu'il a été vraiment impressionnant. Mais si tu le signes comme releveur, éventuellement, ben c'est pas le même prix que s'il devient un lanceur partant. Alors, il y a tout ça à considérer.
Ouais. Bassett a-t-il été intimidé ou il y en avait juste moins dans le réservoir? Parce que il n'y avait pas la même étoffe qu'on avait vu lors des matchs précédents.
Ben, moi, je pense que de passer à partant à releveur, ton corps, c'est pas pareil. Ton bras, là, à un moment donné, tu as des repos, tu as 4 jours de repos en tes départs, il y a une routine, il y a une préparation. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas agi comme releveur. Oui. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je pense qu'il y avait un peu de fatigue dans Chris Bassett dans sa dernière saison.
Faut absolument qu'on t'entende sur Yamamoto,
ben
Marc.
Oui.
Pour moi, c'est pas quelque chose que je pensais voir un jour. Je sais que Randy Johnson l'a déjà fait. C'était le dernier, je pense, à avoir fait ça, d'avoir lancé un match numéro 6 et à revenir dans un match numéro 7 comme releveur. Mais jamais pour te donner 2 manches et 2 tiers, comme Yamamoto a fait. 96 lancés dans le match numéro 6. Il revient, se porte volontaire, je suis prêt à lancer. Incroyable. 100 journées de repos. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, de la part de Yamamoto?
Ben, ça a défié toute logique. Tu sais, tout le monde parle de bras, protection de bras, de blessures, 96 tirs, 34 autres, plus ton échauffement. Puis écoute, il avait l'air aussi bon. Il avait aussi bon que la veille.
Il avait encore dans le camp.
Ah non, écoute,
si le match continue, il continue, là.
Ben écoute, c'est comme si on était retourné au début du siècle, pratiquement, où là, tu avais un lanceur par équipe, puis les gars lançaient tout le temps. Là,
ouais.
Vraiment, non, regarde, la discipline des joueurs asiatiques, là, faut-il le dire. Là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il a fait le ménage, là, après, on s'en était parlé, là, mais... Mais plus que ça, c'est que prendre soin de leurs bras, prendre soin de leur corps, là, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ces gars-là, là, c'est à la fine pointe de tout ce qui se fait. C'est pour ça que ça lui a permis de faire ça. Mais c'est phénoménal. T'sais, je veux dire, tu gagnes le match 2, 6 et 7.
C'est 2 contre Yassara.
Oui, exact. 2, 6 et 7. Puis de le faire de cette... Regarde, c'est exceptionnel. Oubliez pas qu'on l'avait signé pour au-dessus de 300 millions sans qu'il ait effectué un seul tir encore dans le baseball majeur. On savait qu'on avait quelque chose de très, très bon.
Ah oui, puis du monde qui chialait. Comment tu peux donner un aussi gros montant à quelqu'un qui n'a jamais joué? Pour ça, c'est la raison pour laquelle tu peux signer un gars de même. Marc, habituellement, on se parle après chaque match. Malheureusement, c'est pas parlé après le match numéro 6. Et c'est pas comme s'il y avait manqué d'action aussi dans le match numéro 6. Les Jays ont une chance de revenir dans la rencontre à la toute fin. Addison Barger, une claque à la clôture. La balle se loge directement en dessous de la clôture. On appelle une balle morte et on donne un double automatique. Est-ce que la bonne décision a été rendue?
Ben, malheureusement, ou en tout cas c'est selon, oui, parce qu'il y a une règle. Elle est écrite, si une balle reste coincée et qu'un arbitre, là, c'est, dans ce cas-ci, c'est la, il y a 6 officiels là, durant les séries, l'arbitre du champ gauche a levé les bras en disant que c'est la balle est prise, donc double automatique. Il y a une règle, mais... Moi, j'aurais aimé, là, tu sais, dans un monde idéal, que les Dodgers jouent la balle, puis qu'après ça, on puisse aller à la reprise vidéo, puis dire, OK, est-ce qu'elle était vraiment coincée? Mais chapeau à Kiki Hernandez, et qui a levé les bras immédiatement, puis en levant les bras, ben, ça a peut-être influencé un petit peu l'officiel, puis là, en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, il y a une zone grise, parce qu'on voyait vraiment que la balle n'était pas vraiment coincée. Oui, elle n'a pas bougé après qu'elle ait donné contre la clôture, mais elle était là. Donc, ça a fait jaser beaucoup. Mais il y a une règle.
C'était facile de déloger, mettons. Là.
Exact.
Exact, mais il y a une règle. Mais imagine-toi la malchance quand même. Là. Je veux dire, il y a des employés du Rogers Center qui... Tu sais, qui sont là depuis les 30 dernières années. Ils n'ont jamais vu ça.
Alors, ils offraient ça 1 million de fois, la balle tombe ailleurs.
Là, alors que si la balle tombe, elle est en jeu. Probablement que Miles Straw vient marquer là-dessus. Oui. Parce qu'il est au premier but, puis il y a le jeu devant lui. Puis, et là, on se retrouve dans une situation complètement différente. On ne saura jamais, évidemment, mais les Jays ont joué de malchance là-dessus.
Ah oui, ça c'est sûr et certain. Et puis là, malheureusement, on se retrouve dans une situation où Addison Barger est un peu trop agressif et il se fait épingler au deuxième sur une balle captée par Kiki Hernandez. Tu sais, oui, c'est pas une bonne course de Barger, mais en même temps, j'aime mieux avoir à retenir quelqu'un que d'avoir à pousser quelqu'un. Puis je pense que Barger, il voulait faire la différence, il voulait créer le point égalisateur. Malheureusement, son enthousiasme est venu le jouer.
Ben, la ligne est mince entre un départ agressif puis une bonne décision. C'est pas grand-chose. Par contre, tu sais, Kiki Hernandez n'a pas plongé pour capter cette balle-là. Tu sais, je veux dire, il était en pleine course, il a attrapé la balle à la hauteur de la poitrine. Là, tu sais, alors...
Le temps de réaction
c'est
est un peu
sûr là, que dans le jargon du baseball, tu peux jamais te faire prendre dans une situation de même. Ça, c'est facile à dire. Mais dans cette situation-là, effectivement, d'être un petit peu plus agressif, ça nuit. Mais si la balle tombe et il vient pas marquer, on va dire comment ça, il vient pas marquer? Exact. Alors, tu comprends? Fait que
En même temps, la balle tombe, je veux dire, c'est au champ à gauche. Je pense pas qu'il vient marquer, même si la balle tombe devant Kiki. Par contre, Straw, lui, entre au. Mais ça vient marquer. Je sais que ça va vite, mais
ça fait toute partie.
Tu t'enlèves le bâton des mains de George Springer, là. C'est Springer qui s'en vient frapper, là. Tu sais, c'est.
Si t'as ce lead-là au premier, c'est une chose. Mais là, Kiki, sa course l'amène vers le deuxième. C'est un jeu beaucoup plus facile à effectuer.
Il y a l'impulsion vers le deuxième but pour envoyer la balle aussi.
Le rôle du coureur, là, lorsque t'es au deuxième puis la balle est frappée au champ gauche, là, c'est de immédiatement pivoter. Tu sais, pour avoir vraiment la vue complète. C'est pas de tourner la tête par-dessus l'épaule. Tu pivotes complètement, puis là,
tu regardes ce qui se passe.
Exact. Ouais. Et tu peux toujours faire des pas chassés en le faisant. Et Barger a comme réagi trop tard dans son pivot pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait. Tu sais, trop tard, là, les gars, c'est une fraction de seconde. C'est pas trois pas. Là. C'est vraiment, là, il a fait un pas, oups, ah, il l'a vu, il est revenu trop tard. Ouais. Et comme tu as mentionné tantôt, quel jeu de roisse.
Mais si je reviens dans le match numéro 7, par contre, c'est Barger, je voulais la plaque en 11e pour aller chercher le ballon sacrifice parce que je suis convaincu qu'il aurait fait le travail. Et c'est pas un hasard si Yamamoto lui a donné un but sur balle. C'est un genre de but sur balle intentionnel déguisé, je pense que le lanceur lui a servi.
Ah ouais.
On voulait se donner une chance d'avoir un double jeu.
Ah, c'est exactement. Ouais. Écoute, il n'y a aucun doute que c'était ça. Mais, et puis tu sais, évidemment, quel bon candidat en Kirk est arrivé ce qui est arrivé. J'ai trouvé Kirk, tu sais, puis là, évidemment, là, mettez-vous dans la peau du receveur, là, où il sait qu'il peut créer l'égalité en série mondiale, mais il n'y a pas eu une bonne présence au bâton. Non. Là. Il s'était lancé au départ sur un tir qui est hors de la zone des prises. C'est clair qu'on voulait le lancer au coin extérieur pour lui forcer justement à aller
tirer la balle.
Tirer la balle.
Ben oui.
Il est tombé dans le piège, puis ça s'est terminé de même. C'est quand même deux matchs qui se sont terminés de façon cruelle pour les Blue Jays de Toronto.
Ah, puis tu peux rajouter le match de 18 manches aussi.
Aussi, ouais.
C'est une série mondiale qu'on va se souvenir très longtemps.
Mémorable.
Honnêtement, je sais pas qui nous disait ça plus tôt, mais les cotes d'écoute aux États-Unis étaient phénoménales pour un match des... C'est Alain Crête.
Ouais.
Pour un match Blue Jays, là. Pas deux équipes américaines, là.
Non, mais c'est le baseball qui a gagné dans ça, les gars. C'est la qualité de la série mondiale qu'on a eue, là. C'est le sport qui en sort gagnant.
Ouais.
Vraiment, là. Moi je tu sais, j'ai été à la série mondiale Cleveland-Chicago, rappelez-vous, là.
2016.
2016.
Tu sais, ouais. C'était toute une série mondiale, mais honnêtement, celle-ci était plus spectaculaire encore. C'est passé plus de choses. Ouais. Il y a des revirements. Tout le monde va s'en rappeler, là. Il y a même A-Rod qui a mentionné que lui, il n'avait jamais vu ça, là. Alors, il y en a eu des jeux qu'on va se rappeler longtemps, ça c'est clair.
Ouais, malheureusement, les Jays, peut-être que ça va prendre un bon bout avant de se retrouver sur la scène de la série mondiale. Ça, c'est le sport est cruel.
On le sait jamais.
Ça peut prendre un an comme ça peut prendre encore 30 ans avant de retourner. Ouais.
D'après moi, les Dodgers, ça prendra pas 30 ans avec qui.
Pense pas, non.
Vous dites ça de même, là.
Pense pas, non. Merci de t'être déplacé.
Merci,
studio.
Les gars, puis merci de me donner cette tribune-là. C'est bien le fun de jaser de balle avec vous.
Ben, on a adoré faire de la radio avec toi pratiquement sur une base quotidienne depuis quoi? Ça fait au moins 3 semaines qu'on se parle très régulièrement. Puis déjà hâte à la prochaine saison. Je pense que 2026, on va avoir encore de la belle balle.
Ben écoutez, puis oubliez pas, il y a la classique mondiale
au mois de mars.
Fait que la balle, il n'y a plus de saison morte, hein, soit dit en passant. Il se passe des choses. Déjà, on a donné les gants d'or. Après ça, tu vois les joueurs autonomes, le temps de la renommée.
Les directeurs généraux, les winter meetings, habituellement, il se passe bien des choses aussi. Là. On va suivre ça de près, c'est sûr.
C'est sûr et certain. Merci Marc, on se reparle bientôt.
Salut les gars. Ciao.
Allez, bye bye. On s'en va à la pause. De l'autre côté, Renaud Lavoie revient sur le cas. Nick Cousins.